Hugues Jargal de Victor Hugo. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 24. Tandis que la scène que Thaddée vient de décrire, Thaddée triomphant vint se placer derrière le capitaine, tandis que la scène que Thaddée vient de décrire se passait derrière le Mornay, j'étais parvenu avec quelques-uns des miens à grimper de broussaille en broussaille sur un pic nommé le Pic du Pan, à cause des teintes irisées que le mica répandu à sa surface présentait aux rayons du soleil. Ce pic était de niveau avec les positions des Noirs. Le chemin une fois frayé, le sommet fut bientôt couvert de milices. Nous commençâmes une vive fusillade. Les nègres, moins bien armés que nous, ne purent nous riposter aussi chaudement. Ils commencèrent à se décourager. Nous redoublâmes d'acharnement et bientôt les rocs les plus voisins furent évacués par les rebelles qui cependant eurent d'abord soin de faire rouler les cadavres de leurs morts sur le reste de l'armée encore rangée en bataille sur le Mornay. Alors nous abattîmes et liâmes ensemble, avec des feuilles de palmier et des cordes, plusieurs troncs de ces énormes cotonniers sauvages dont les premiers habitants de l'île faisaient des pirogues de 100 rameurs. À l'aide de ce pont improvisé, nous passâmes sur les pics abandonnés et une partie de l'armée se trouva ainsi avantageusement postée. Cet aspect ébranla le courage des insurgés. Notre feu se soutenait. Des clameurs lamentables, auxquels se mêlait le nom de Hugues Jargal, retentirent soudain dans l'armée de Biassou. Une grande épouvante s'y manifesta, plusieurs noirs du Morne Rouge parurent sur le roc où flottait le drapeau écarlate. Ils se prosternèrent, enlevèrent l'étendard et se précipitèrent avec lui dans les gouffres de la grande rivière. Cela semblait signifier que leur chef était mort ou pris. Notre audace s'en accrut à tel point que je résolus de chasser à l'arme blanche les rebelles des rochers qu'ils occupaient encore. Je fis jeter un pont de tronc d'arbre entre notre pic et le roc le plus voisin, et je m'élançai le premier au milieu des nègres. Les miens allaient me suivre quand un des rebelles, d'un coup de hache, fit voler le pont en éclats. Les débris tombèrent dans l'abîme, en battant les rocs avec un bruit épouvantable. Je tournai la tête. En ce moment, je me sentis saisir par 6 ou 7 noirs qui me désarmèrent. Je me débattais comme un lion. Ils me lièrent avec des cordes d'écorce, sans s'inquiéter des balles que mes gens faisaient pleuvoir autour d'eux. Mon désespoir ne fut adouci que par les cris de victoire que j'entendis pousser autour de moi un instant après. Je vis bientôt les noirs et les mulâtres gravir pêle-mêle les sommets les plus escarpés en jetant des clameurs de détresse. Mes gardiens les imitèrent, le plus vigoureux d'entre eux me chargea sur ses épaules et m'emporta vers les forêts en sautant de roche en roche avec l'agilité d'un chamois. La lueur des flammes cessa bientôt de le guider, la faible lumière de la lune lui suffit. Il se mit seulement à marcher avec moins de rapidité. Chapitre 25. Après avoir traversé des halliers et franchi des torrents, nous arrivâmes dans une haute vallée d'un aspect singulièrement sauvage. Le lieu m'était absolument inconnu. Cette vallée était située dans le cœur même des Mornes, dans ce qu'on appelle à Saint-Domingue les doubles montagnes. C'était une grande savane verte, emprisonnée dans des murailles de roches nues, parsemée de bouquets de pins, de gaillacs et de palmistes. Le froid vif qui règne presque continuellement dans cette région de l'île, bien qu'il n'y gèle pas, était encore augmenté par la fraîcheur de la nuit qui finissait à peine. L'aube commençait à faire revivre la blancheur des hauts sommets environnants, et la vallée, encore plongée dans une obscurité profonde, n'était éclairée que par une multitude de feux allumés par les nègres. Car c'était là leur point de ralliement. Les membres disloqués de leur armée s'y rassemblaient en désordre, les noirs et les mulâtres arrivaient de moment en moment par troupes effarées, avec des cris de détresse ou des hurlements de rage, et de nouveaux feux, brillant comme des yeux de tigre dans la sombre savane, marquaient à chaque instant que le cercle du camp s'agrandissait. Le nègre dont j'étais le prisonnier m'avait déposé au pied d'un chêne, d'où j'observais avec insouciance ce bizarre spectacle. Le noir m'attacha par la ceinture au tronc de l'arbre auquel j'étais adossé, resserra les nœuds redoublés qui comprimaient tous mes mouvements, mit sur ma tête son bonnet de laine rouge, sans doute pour indiquer que j'étais sa propriété, et après qu'il se fut ainsi assuré que je ne pourrais ni m'échapper, ni lui être enlevé par d'autres, il se disposa à s'éloigner. Je me décidai alors à lui adresser la parole, et je lui demandai en patois créole s'il était de la bande du Dondon ou de celle du Morne Rouge. Il s'arrêta et me répondit d'un air d'orgueil. « Morne Rouge !» Une idée me vint. J'avais entendu parler de la générosité du chef de cette bande, Bugue Jargal, et quoique résolu sans peine à une mort qui devait finir tous mes malheurs, l'idée des tourments qui m'attendaient si je la recevais de Biassou ne laissait pas que de m'inspirer quelque horreur. Je n'aurais pas mieux demandé que de mourir sans ces tortures. Et c'était peut-être une faiblesse, mais je crois qu'en de pareils moments, notre nature d'homme se révolte toujours. Je pensais donc que si je pouvais me soustraire à Biassou, j'obtiendrais peut-être de Bugue Jargal une mort sans supplice, une mort de soldat. Je demandai à ce nègre du Morne Rouge de me conduire à son chef, Bugue Jargal. Il tressaillit. « Bugue Jargal !» dit-il en se frappant le front avec désespoir. Puis, passant rapidement à l'expression de la fureur, il grinça des dents et me cria en me montrant le poing. « Biassou, Biassou !» Après ce nom menaçant, il me quitta. La colère et la douleur du nègre me rappelèrent cette circonstance du combat dans laquelle nous avions conclu la prise ou la mort du chef des bandes du Morne Rouge. Je n'en doutais plus, et je me résignai à cette vengeance de Biassou dont le noir semblait me menacer. Chapitre 26. Cependant les ténèbres couvraient encore la vallée où la foule des noirs et le nombre des feux s'accroissait sans cesse. Un groupe de négresses vint allumer un foyer près de moi. Aux nombreux bracelets de verre bleu, rouge et violet qui brillaient échelonnés sur leurs bras et leurs jambes, aux anneaux qui chargeaient leurs oreilles, aux bagues qui ornaient tous les doigts de leurs mains et de leurs pieds, aux amulettes attachées sur leurs seins, aux colliers de charme suspendus à leur cou, aux tabliers de plumes bariolées, seuls vêtements qui voilà leur nudité, et surtout à leurs clameurs cadencées, à leurs regards vagues et hagards, je reconnus des griottes. Vous ignorez peut-être qu'il existe parmi les Noirs de diverses contrées de l'Afrique des nègres doués de je ne sais quel grossier talent de poésie et d'improvisation qui ressemble à la folie. Ces nègres, errant de royaume en royaume, sont dans ces pays barbares ce qu'étaient les rhapsodes antiques et, dans le Moyen-Âge, les ménestrels d'Angleterre, le Minnesinger d'Allemagne et les trouvères de France. On les appelle griots. Leurs femmes, les griottes, possédées comme eux d'un démon insensé, accompagnent les chansons barbares de leurs maris par des danses lubriques et présentent une parodie grotesque des bayadères de l'Hindoustan et des armées égyptiennes. C'était donc quelques-unes de ces femmes qui venaient de s'asseoir en rond, à quelques pas de moi, les jambes repliées à la mode africaine, autour d'un grand amas de branchages desséchés qui brûlaient en faisant trembler sur leur visage hideux la lueur rouge de ces flammes. Dès que leur cercle fut formé, elles se prirent toute la main et la plus vieille, qui portait une plume de héron plantée dans ses cheveux, se mit à crier « Wanga !» Je compris qu'elles allaient opérer un de ces sortilèges qu'elle désigne sous ce nom. Toutes répétèrent « Wanga !» La plus vieille, après un silence de recueillement, arracha une poignée de ses cheveux et la jeta dans le feu en disant ces paroles sacramentelles « Maléongab !» qui, dans le jargon des nègres créoles, signifie « J'irai au diable ». Toutes les griottes, imitant leur doyenne, livrèrent aux flammes une mèche de leurs cheveux et redirent gravement « M'allez au diable !» Cette invocation étrange et les grimaces burlesques qui l'accompagnaient m'arrachèrent une espèce de convulsion involontaire qui saisit souvent malgré lui l'homme le plus sérieux ou même le plus pénétré de douleur et qu'on appelle le fou rire. Je voulus en vain le réprimer. Il éclata. Ce rire, échappé à un cœur bien triste, fit naître une scène singulièrement sombre et effrayante. Toutes les négresses, troublées dans leur mystère, se levèrent comme réveillées en sursaut. Elles ne s'étaient pas aperçues jusque-là de ma présence. Elles coururent tumultueusement vers moi en hurlant « Blanco, Blanco !» Je n'ai jamais vu une réunion de figures plus diversement horribles que ne l'étaient dans leur fureur tous ces visages noirs avec leurs dents blanches et leurs yeux blancs traversés de grosses veines sanglantes. Elle m'allait déchirer. La vieille à la plume de héron fit un signe et cria à plusieurs reprises « Zote cordé, zote cordé !»« Accordez-vous, accordez-vous !» Ces forcenés s'arrêtèrent subitement, et je les vis, non sans surprise, détacher toutes ensemble leurs tabliers de plumes, les jeter sur l'herbe et commencer autour de moi une danse lascive que les Noirs appellent la chica. Cette danse, dont les attitudes grotesques et la vive allure n'expriment que le plaisir et la gaieté, empruntait ici de diverses circonstances accessoires un caractère sinistre. Les regards foudroyants que me lançaient les griottes au milieu de leurs folâtres évolutions, l'accent lugubre qu'elles donnaient à l'air joyeux de la chica, le gémissement aigu et prolongé que la vénérable présidente du Sanhédrin noir arrachait de temps en temps à son balafaud, espèce d'épinette qui murmure comme un petit orgue et se compose d'une vingtaine de tuyaux de bois durs dont la grosseur et la longueur vont en diminuant graduellement, et surtout l'horrible rire que chaque sorcière nu à certaines poses de la danse venait me présenter à son tour en appuyant presque son visage sur le mien, ne m'annonçait que trop à quels affreux châtiments devait s'attendre le blanco profanateur de leur wanga. Je me rappelais la coutume de ces peuplades sauvages qui dansent autour des prisonniers avant de les massacrer, et je laissais patiemment ces femmes exécuter le ballet du drame dont je devais ensanglanter le dénouement. Cependant, je ne pus m'empêcher de frémir quand je vis à un moment marqué par le balafaud chaque griotte mettre dans le brasier la pointe d'une lame de sabre ou le fer d'une hache, l'extrémité d'une longue aiguille à voiture, les pinces d'une tenaille ou les dents d'une scie. La danse touchait à sa fin. Les instruments de torture étaient rouges. À un signal de la vieille, les négresses allèrent processionnellement chercher, l'une après l'autre, quelque arme horrible dans le feu. Celles qui ne purent se munir d'un fer ardent prirent un tison enflammé. Alors je compris clairement quel supplice m'était réservé et que j'aurais un bourreau de chaque danseuse. À un autre commandement de leur coryphée, elles recommencèrent une dernière ronde en se lamentant d'une manière effrayante. Je fermai les yeux pour ne plus voir du moins les ébats de ces démons femelles qui, haletant de fatigue et de rage, entrechoquaient en cadence sur leur tête leur ferraille flamboyante, d'où s'échappait un bruit aigu et des myriades d'étincelles. J'attendis en me roidissant l'instant où je sentirais mes chairs se tourmenter, mes os se calciner, mes nerfs se tordre sous les morsures brûlantes des tenailles et des scies, et un frisson courut sur tous mes membres. Ce fut un moment affreux. Il ne dura heureusement pas longtemps. La chica des griottes atteignait son dernier épisode, quand j'entendis de loin la voix du nègre qui m'avait fait prisonnier. Il accourait en criant « Que hacéis, mujeres de demonio ? Que hacéis, Ali ?
Dexaïs, mi prisionero! Que faites-vous, femme du démon? Que faites-vous là? Laissez mon prisonnier!
Je rouvris les yeux. Il était déjà grand jour. Le nègre se hâtait avec 1000 gestes de colère, les griottes s'étaient arrêtées, mais elle paraissait moins émue de ces menaces qu'interdites par la présence d'un personnage assez bizarre dont le noir était accompagné. C'était un homme très gros et très petit, une sorte de nain, dont le visage était caché par un voile blanc percé de 3 trous pour la bouche et les yeux, à la manière des pénitents. Ce voile, qui tombait sur son cou et ses épaules, laissait nue sa poitrine velue, dont la couleur me parut être celle des griffes, et sur lesquelles brillait, suspendu à une chaîne d'or, le soleil d'un ostensoir d'argent tronqué. On voyait le manche en croix d'un poignard grossier passer au-dessus de sa ceinture écarlate qui soutenait un jupon rayé de vert, de jaune et de noir, dont la frange descendait jusqu'à ses pieds larges et difformes. Ses bras, nus comme sa poitrine, agitaient un bâton blanc, un chapelet, dont les grains étaient d'Adrézarac, pendait à sa ceinture, près du poignard. Et son front était surmonté d'un bonnet pointu orné de sonnettes dans lequel, lorsqu'il s'approcha, je ne fus pas peu surpris de reconnaître la gora d'Abibra. Seulement, parmi les hiéroglyphes dont cette espèce de mitre était couverte, on remarquait des taches de sang. C'était sans doute le sang du fidèle bouffon. Ces traces de meurtre me parurent une nouvelle preuve de sa mort et réveillèrent dans mon cœur un dernier regret. Au moment où les griottes aperçurent cet héritier du bonnet d'Abibra, elles s'écrièrent toutes ensemble « Lobby !» et tombèrent prosternées. Je devinai que c'était le sorcier de l'armée de Biassou. « Basta ! Basta !» dit-il en arrivant auprès d'elle avec une voix sourde et grave. « Dexaïs el prisionero de Biassou !»« il suffit, laissez le prisonnier de Biassou !» Toutes les négresses, se relevant en tumulte, jetèrent les instruments de mort dont elles étaient chargées, reprirent leurs tabliers de plumes et, à un geste de Lobby, elles se dispersèrent comme une nuée de sauterelles. En ce moment, le regard de Lobby parut se fixer sur moi. Il tressaillit, recula d'un pas et reporta son bâton blanc vers les griottes comme s'il eût voulu les rappeler. Cependant, après avoir grommelé entre ses dents le mot « maldicho » « maudit » et dit quelques paroles à l'oreille du nègre, il se retira lentement, en croisant les bras et dans l'attitude d'une profonde méditation.
Chapitre 27. Mon gardien m'apprit alors que Biassou demandait à me voir et qu'il fallait me préparer à soutenir dans une heure une entrevue avec ce chef. C'était sans doute encore une heure de vie. En attendant qu'elle fût écoulée, mes regards erraient sur le camp des rebelles, dont le jour me laissait voir dans ses moindres détails la singulière physionomie. Dans une autre disposition d'esprit, je n'aurais pu m'empêcher de rire de l'inepte vanité des Noirs, qui étaient presque tous chargés d'ornements militaires et sacerdotaux, dépouilles de leurs victimes. La plupart de ces parures n'étaient plus que des haillons déchiquetés et sanglants. Il n'était pas rare de voir briller un hausse-col sous un rabat ou une épaulette sur une chasuble. Sans doute pour se délasser des travaux auxquels ils avaient été condamnés toute leur vie, les nègres restaient dans une inaction inconnue à nos soldats, même retirés sous la tente. Quelques-uns dormaient au grand soleil, la tête près d'un feu ardent. D'autres, l'œil tour à tour terne et furieux, chantaient un air monotone, accroupis sur le seuil de leurs ajoupas, espèce de hutte couverte de feuilles de bananiers ou de palmiers, dont la forme conique ressemble à nos tentes canonnières. les femmes noires ou cuivrées, aider des négrillons, préparer la nourriture des combattants. Je les voyais remuer avec des fourches l'igname, les bananes, la patate, les pois, le coco, le maïs, le chou caraïbe, qu'ils appellent taillot, et une foule d'autres fruits indigènes qui bouillonnaient autour des quartiers de porcs, de tortues ou de chiens, dans de grandes chaudières volées aux cases des planteurs. Dans le lointain, aux limites du camp, les griots et les griottes formaient de grandes rondes autour des feux, et le vent m'apportait par lambeaux leurs chants barbares mêlés au son des guitares et des balafos. Quelques vedettes, placées au sommet des rochers voisins, éclairaient les alentours du quartier général de Biassou, dont le seul retranchement en cas d'attaque était un cordon circulaire de cabroués chargé de butin et de munitions. Ces sentinelles noires, debout sur la pointe aiguë des pyramides de granit dont les mornes sont hérissées, tournaient fréquemment sur elles-mêmes, comme les girouettes sur les flèches gothiques, et se renvoyaient l'une à l'autre de toute la force de leurs poumons, le cri qui maintenait la sécurité du camp. « Nada, nada !» Rien, rien. De temps en temps, des attroupements de nègres curieux se formaient autour de moi. Tous me regardaient d'un air menaçant. Chapitre 28. Enfin, un peloton de soldats de couleur, assez bien armés, arriva vers moi. Le noir à qui je semblais appartenir me détacha du chêne auquel j'étais lié et me remit au chef de l'escouade, des mains duquel il reçut en échange un assez gros sac qu'il ouvrit sur le champ. C'était des piastres. Pendant que le nègre agenouillé dans l'herbe les comptait avidement, les soldats m'entraînèrent. Je considérai avec curiosité leur équipement. Ils portaient un uniforme de gros drap, brun, rouge et jaune, coupé à l'espagnol, une espèce de montera castillane ornée d'une large cocarde rouge. On sait que cette couleur est celle de la cocarde espagnole. Cachaient leurs cheveux de laine. Ils avaient, au lieu de giberne, une façon de carnassière attachée sur le côté. Leurs armes étaient un lourd fusil, un sabre et un poignard. J'ai su depuis que cet uniforme était celui de la garde particulière de Biassou. Après plusieurs circuits entre les rangées irrégulières d'ajoupa qui encombraient le camp, nous parvînmes à l'entrée d'une grotte, taillée par la nature au pied de l'un de ces immenses pans de roche dont la savane était murée. Un grand rideau d'une étoffe tibétaine, qu'on appelle le cachemire, et qui se distingue moins par l'éclat de ses couleurs que par ses plis moelleux et ses dessins variés, fermait à l'œil l'intérieur de cette caverne. Elle était entourée de plusieurs lignes redoublées de soldats, équipés comme ceux qui m'avaient amené. Après l'échange du mot d'ordre avec les deux sentinelles qui se promenaient devant le seuil de la grotte, le chef de l'escouade souleva le rideau de cachemire et m'introduisit en le laissant retomber derrière moi. Une lampe de cuivre à cinq becs, pendue par des chaînes à la voûte, jetait une lumière vacillante sur les parois humides de cette caverne fermée au jour. Entre deux haies de soldats mulâtres, j'aperçus un homme de couleur assis sur un énorme tronc d'acajou que recouvrait à demi un tapis de plumes de perroquet. Cet homme appartenait à l'espèce des sacatras, qui n'est séparé des nègres que par une nuance souvent imperceptible. Son costume était ridicule. Une ceinture magnifique de tresses de soie, à laquelle pendait une croix de Saint-Louis, retenait à la hauteur du nombril un caleçon bleu de toile grossière. Une veste de basin blanc, trop courte pour descendre jusqu'à la ceinture, complétait son vêtement. Il portait des bottes grises, un chapeau rond, surmonté d'une cocarde rouge, et des épaulettes dont l'une était d'or avec les deux étoiles d'argent des maréchaux de camp, l'autre de laine jaune. Deux étoiles de cuivre qui paraissaient avoir été des molettes d'éperon avaient été fixées sur la dernière, sans doute pour la rendre digne de figurer auprès de sa brillante compagne. Ces deux épaulettes n'étant point bridées à leur place naturelle, par des ganses transversales, pendaient des deux côtés de la poitrine du chef. Un sabre et des pistolets richement damasquinés étaient posés sur le tapis de plumes auprès de lui. Derrière son siège se tenaient, silencieux et immobiles, deux enfants revêtus du caleçon des esclaves et portant chacun un large éventail de plumes de paon. Ces deux enfants esclaves étaient blancs. Deux carreaux de velours cramoisi, qui paraissaient avoir appartenu à quelque prie-dieu de presbytère, marquaient deux places à droite et à gauche du bloc d'acajou. L'une de ces places, celle de droite, était occupée par l'obi qui m'avait arraché à la fureur des griottes. Il était assis, les jambes repliées, tenant sa baguette droite, immobile comme une idole de porcelaine dans une pagode chinoise. Seulement, à travers les trous de son voile, je voyais briller ses yeux flamboyants, constamment attachés sur moi. De chaque côté du chef étaient des faisceaux de drapeaux, de bannières et de guidons, de toute espèce, parmi lesquels je remarquai le drapeau blanc fleur-de-lysée, le drapeau tricolore et le drapeau d'Espagne. Les autres étaient des enseignes de fantaisie. On y voyait un grand étendard noir. Dans le fond de la salle, au-dessus de la tête du chef, un autre objet attira encore mon attention. C'était le portrait de ce mulâtre Auger, qui avait été roué l'année précédente au Cap, pour crime de rébellion, avec son lieutenant Jean-Baptiste Chavannes, et 23 autres noirs ou sans mêlée. Dans ce portrait, Auger, fils d'un boucher du Cap, était représenté comme il avait coutume de se faire peindre, en uniforme de lieutenant-colonel, avec la croix de Saint-Louis et l'ordre du mérite du Lion qu'il avait acheté en Europe auprès du prince de Limbourg. Le chef Sacatra devant lequel j'étais introduit était d'une taille moyenne. Sa figure ignoble portait un rare mélange de finesse et de cruauté. Il me fit approcher et me considéra quelque temps en silence. Enfin, il se mit à ricaner à la manière de l'hyène. « Je suis Biassou, » me dit-il. Je m'attendais à ce nom, mais je ne pus l'entendre de cette bouche au milieu de ce rire féroce, sans frémir intérieurement. Mon visage pourtant resta calme et fier. Je ne répondis rien. « Eh bien, » reprit-il en assez mauvais français, « est-ce que tu viens déjà d'être empalé pour ne pouvoir plier les chines du dos en présence de Jean Biassou, généralissime des pays conquis et maréchal des camps des armées du Su-Majesta Catholica ?» La tactique des principaux chefs rebelles était de faire croire qu'ils agissaient tantôt pour le roi de France, tantôt pour la Révolution, tantôt pour le roi d'Espagne. Je croisais les bras sur ma poitrine et le regardais fixement. Il recommença à ricaner. Ce tic lui était familier. « Oh oh, me pareces hombre de buen corazón. Tu me parais homme de bon courage. Eh bien, écoute ce que je vais te dire. Es-tu créole ?»« Non, répondis-je, je suis français. » Mon assurance lui fit froncer le sourcil. Il reprit en ricanant. « Tant mieux. Je vois à ton uniforme que tu es officier. Quel âge as-tu ? » 20 ans. « Quand les as-tu atteints ?» À cette question qui réveillait en moi de bien douloureux souvenirs, je restais un moment absorbé dans mes pensées. Il la répéta vivement, je lui répondis. « Le jour où ton compagnon Léogris fut pendu. » La colère contracta ses traits, son ricanement se prolongea. Il se contint cependant. « Il y a 23 jours que Léogris fut pendu, » me dit-il. « Français, tu lui diras ce soir de ma part que tu as vécu 24 jours de plus que lui. Je veux te laisser au monde encore cette journée, afin que tu puisses lui compter où en est de la liberté de ses frères. Ce que tu as vu dans le quartier général de Jean Biassou, maréchal de camp, et quelle est l'autorité de ce généralissime sur les gens du roi ?» C'était sous ce titre que Jean-François, qui se faisait appeler grand amiral de France, et son camarade Biassou, désignaient leur horde de nègres et de mulâtres révoltés. Alors il ordonna que l'on me fît asseoir entre deux gardes dans un coin de la grotte. Et, adressant un signe de la main à quelques nègres affublés de la bidette de camp,
« Combattre le rappel, que toute l'armée se rassemble autour de notre quartier général, pour que nous la passions en revue. Et vous, monsieur le chapelain,
dit-il en se tournant vers Lobby,
couvrez-vous de vos vêtements sacerdotaux et célébrez pour nous et nos soldats le saint sacrifice de la messe. »
Lobby se leva, s'inclina profondément devant Biassou et lui dit à l'oreille quelques paroles que le chef interrompit brusquement et à haute voix.
« Vous n'avez point d'hôtel, dites-vous, seigneur Cura. Cela est-il étonnant dans ces montagnes? Mais qu'importe, depuis quand le bon Jiu ?»«
Patois créole, le bon Dieu. » »«
A-t-il besoin pour son culte d'un temple magnifique, d'un hôtel orné d'or et de dentelles? Gédéon et Josué l'ont adoré devant ces morceaux de pierre. Faisons comme eux. Bon père. »
Patois créole, bon père.
Il suffit au bon Jiu que les queues soient fervents. Vous n'avez point d'hôtel, eh bien, ne pouvez-vous pas en faire un de cette grande caisse de sucre prise avant-hier par les gens du roi dans l'habitation du buisson?
L'intention de Biassou fut promptement exécutée. En un clin d'œil, l'intérieur de la grotte fut disposé pour cette parodie de divin mystère. On apporta un tabernacle et un saint ciboire enlevés à la paroisse de la Cule, au même temple où mon union avec Marie avait reçu du ciel une bénédiction si promptement suivie de malheur. On érigea en autel la caisse de sucre volé, qui fut couverte d'un drap blanc en guise de nappe, ce qui n'empêchait pas de lire encore sur les faces latérales de cet autel « Du Buisson et compagnie » pour Nantes. Quand les vases sacrés furent placés sur la nappe, Lobby s'aperçut qu'il manquait une croix. Il tira son poignard dont la garde horizontale présentait cette forme et le planta debout entre le calice et l'ostensoir, devant le tabernacle. Alors, sans ôter son bonnet de sorcier et son voile de pénitent, il jeta promptement la chape volée au prieur de la Cule sur son dos et sa poitrine nue, ouvrit auprès du tabernacle le missel à fermoir d'argent sur lequel avaient été lues les prières de mon fatal mariage, et, se tournant vers Biassou, dont le siège était à quelques pas de l'autel, annonça par une salutation profonde qu'il était prêt. Sur le champ, à un signe du chef, les rideaux de Cachemire furent tirés et nous découvrirent toute l'armée noire rangée en carrés épais devant l'ouverture de la grotte. Biassou ôta son chapeau et s'agenouilla devant l'autel.
« À genoux »
cria-t-il d'une voix forte.
« À genoux !»
répétèrent les chefs de chaque bataillon. Un roulement de tambour se fit entendre. Toutes les hordes étaient agenouillées. Seul, j'étais resté immobile sur mon siège, révolté de l'horrible profanation qui allait se commettre sous mes yeux. Mais les deux vigoureux mulâtres qui me gardaient dérobèrent mon siège sous moi me poussèrent rudement par les épaules et je tombai à genoux comme les autres, contraint de rendre un simulacre de respect à ce simulacre de culte. Lobby officia gravement. Les deux petits pages blancs de Biassou faisaient les offices de diacre et de sous-diacre. La foule des rebelles, toujours prosternée, assistait à la cérémonie avec un recueillement dont le généralissime donnait le premier l'exemple. Au moment de l'exaltation, Lobby, élevant entre ses mains l'hostie consacrée, se tourna vers l'armée et cria en jargon créole
« Zote kone bonjou, selime fozote voer, plantouye li, touye blanc yoitout. »
Vous connaissez le bon Dieu, c'est lui que je vous fais voir. Les blancs l'ont tué. Tué tous les blancs. Depuis, Toussaint Louverture avait coutume d'adresser la même allocution aux nègres après avoir communié. À ces mots, prononcés d'une voix forte, mais qu'il me semblait avoir déjà entendu quelque part et en d'autres temps, toute la horde poussa un rugissement. Ils entrechoquèrent longtemps leurs armes et il ne fallut rien moins que la sauvegarde de Biassou pour empêcher que ce bruit sinistre ne sonnât ma dernière heure. Je compris à quels excès de courage et d'atrocité pouvaient se porter des hommes pour qui un poignard était une croix, et sur l'esprit desquels toute impression est prompte et profonde.